Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Nobody has to provoke. Nobody, ok?
Un air de déjà-vu cet après-midi à Jérusalem. Emmanuel Macron dans les pas de Jacques Chirac. Mimétisme flagrant, le président a passé un savon en anglais aux policiers israéliens qui gardaient l'église Sainte-Anne, qui est un territoire français. L'épidémie de coronavirus, les experts de l'OMS se donnent une journée supplémentaire avant de prendre une décision, alors que les autorités chinoises ont décidé de suspendre tous les trains et tous les avions au départ de Wuhan, la ville où est apparu le virus. La nuit risque d'être très compliquée pour les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, deux départements qui sont toujours placés ce soir en vigilance rouge.
Je suis perdue. Ça m'inquiète. Ouais. Ça me perturbe. Ouais. Les meubles, je m'en fous complètement. Mais les souvenirs, hein, j'ai peur de perdre ça.
Et notez que l'Ariège et la Haute-Garonne sont-elles placées en vigilance orange pour risque de crue. On verra à quoi vont ressembler les prochaines heures avec les prévisions météo complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. À la une également, l'ouverture de Parcoursup et les choses sérieuses qui commencent pour les élèves de terminale. L'écrivaine Ariane Fornia, qui avait accusé Pierre Joxe d'agression sexuelle, condamnée pour diffamation. Et puis le foot et le champagne, va-t-il couler à flot ce soir en Champagne, justement? Pas sûr du tout. Le PSG joue actuellement à Reims pour une place en finale de la Coupe de la Ligue. Vous suivez ça pour nous, Cyril de la Morinerie, bonsoir.
Oui, ben le champagne reste au frais pour le moment, on ne débouche pas. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Marquinhos à la 8e minute et de Conan contre son camp à la 31e. 2-0.
Et c'est la mi-temps. Merci Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera évidemment plus longtemps dans le courant de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Et Emmanuel reçoit ce soir Roland Gomez, directeur général de Proman, 4e groupe d'intérim en Europe. Europe 1. C'était cet après-midi dans la vieille ville de Jérusalem, sous le regard des caméras, Emmanuel Macron qui subitement s'emporte contre les forces de sécurité israéliennes à l'entrée de l'église Sainte-Anne, là où 24 ans plus tôt, un certain Jacques Chirac avait lui aussi haussé le ton, séance qui est restée d'ailleurs dans les annales.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is not a method. This is a provocation.
La colère mémorable de Jacques Chirac en 1996 et le remake en quelque sorte, également en anglais, d'Emmanuel Macron. Vous y étiez, Adrien Beck. Vrai coup de sang ou coup de com', on peut se poser la question.
Oui, Emmanuel Macron connaît très bien cette séquence. Il l'évoque d'ailleurs parfois avec le sourire. Eh bien, cet après-midi, c'est exactement le même scénario qui s'est reproduit. Emmanuel Macron arrive de la vieille ville arabe de Jérusalem où il vient de déambuler pendant près de 3 heures, encadré par son service d'ordre et une vingtaine de policiers israéliens. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Le président donc arrive devant l'église Sainte-Anne, propriété de la France. Et là, sous le porche, éclate une altercation entre policiers israéliens et français. Emmanuel Macron, qui est au milieu de cette altercation, hausse le ton.
We know perfectly. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep.
Alors quelles sont les règles dont parle Emmanuel Macron? Eh bien comme Sainte-Anne appartient à la France, c'est la France et elle seule qui en assure la sécurité. Les policiers israéliens n'étaient donc pas les bienvenus. Il était arrivé d'ailleurs la même chose à Jacques Chirac qui avait alors refusé d'entrer dans le bâtiment. Ce soir, l'Élysée calme le jeu, rien de grave, nous assure l'entourage du chef de l'État. Tout est rentré dans l'ordre.
Adrien Beck, envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. Et le président français participera demain aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il a martelé ce matin son combat contre l'antisémitisme. La négation de l'existence d'Israël comme État est un antisémitisme, a-t-il dit. On en vient à ces intempéries violentes qui touchent actuellement les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Deux départements qui sont placés ce soir en vigilance rouge. C'est la conséquence du passage de la tempête Gloria. Plusieurs communes ont dû être évacuées aujourd'hui en raison de risques d'inondation, notamment Rivesaltes ou encore Toreil. Alerte rouge notamment sur la rivière Agly en aval de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillé. Inquiétude également pour la Massane qui traverse Argelès-sur-Mer. Benjamin Peter, vous êtes sur place pour Europe 1. Benjamin, ces deux cours d'eau sont sous très haute surveillance.
Oui, au dernier pointage, la Gly a été mesurée à 7,20 m. Ça continue de monter. La décision a donc été prise dans les 6 communes concernées. Les habitants évacués sur 300 mètres autour du cours d'eau vont devoir dormir ici, sur des lits de camp. Kevin Mazoyer, le secrétaire général de la préfecture, insiste. Il ne faut surtout pas essayer de rentrer chez soi.
Plus que jamais, on a besoin que les gens respectent les consignes d'évacuation. On a d'ailleurs, sur la commune de Cléra, comme dans l'ensemble des 6 communes, des démarches actuellement pour vérifier que des gens n'ont pas cherché à regagner leur domicile plus que que jamais, il faut qu'ils restent en dehors de cette zone des 300 mètres.
Les habitants ont pu manger un peu et maintenant tous commencent à se demander comment ils vont retrouver leur maison comme Marie-Ange.
Je suis perdue, ça m'inquiète, ouais. Ça me perturbe. Ouais. Les meubles, je m'en fous complètement, mais les souvenirs, hein, j'ai peur de perdre ça. On est bien informés, voilà, on est bien, on est en sécurité. Il faut mieux être là que de rester chez soi puis d'être inondé. On va voir comment ça va se passer pour demain. Quoi, hein. Qu'il y ait des dégâts, mais qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de blessés, c'est le principal.
Voilà, et demain, de nouvelles précipitations sont prévues dès 4 heures du matin, ce qui fait craindre une aggravation de la situation dès le lever du jour.
Benjamin Péter qui est à Cléra pour Europe 1 dans les Pyrénées-Orientales. Notez que l'Ariège et l'Aude sont en alerte orange pour risque de crue également. L'Organisation mondiale de la santé s'est réunie en urgence ce soir à Genève pour évoquer l'épidémie de coronavirus en Chine. Et le directeur de l'OMS indique ce soir qu'il ne veut pas prendre de décision dans l'urgence. Il décide donc de prolonger d'un jour les discussions et il se veut plutôt rassurant. Il explique que les mesures prises par Pékin vont diminuer les risques de propagation internationale. La ville de Wuhan, d'où est parti le virus, a en effet décidé aujourd'hui de suspendre tous les trains et tous les avions. Tandis que le bilan s'est alourdi, Pauline Jacquot, on en est désormais à 17 morts.
Oui, l'épidémie s'étend maintenant à la moitié des provinces chinoises. De nouveaux cas sont apparus à Hong Kong et Macao. Après les États-Unis et l'Asie, c'est l'Europe qui contrôle à son tour ses aéroports, le Royaume-Uni et l'Italie. Des équipes médicales sont chargées de surveiller les passagers qui arrivent de Wuhan. La France, elle, n'a pas encore annoncé de telles mesures. Ça pourrait évidemment changer suivant les décisions de l'OMS.
Mais alors, que peut décider justement l'OMS demain à l'issue de cette réunion qui, je vous le disais, va donc se prolonger ?
Eh bien, elle peut décréter cette urgence de santé mondiale. Si elle le fait, ça veut dire trois choses. Premièrement, la situation est grave, soudaine et inattendue. Deuxièmement, oui, il y a un risque de propagation internationale. Et troisièmement, oui, il faut une réponse coordonnée de tous les pays. Ce serait la sixième fois que l'OMS décréterait cette urgence. Elle l'avait fait notamment pour Zika, Ebola et lors de l'épisode de grippe H1N1 en Asie.
Les précisions de Pauline Jacquot. 5 touristes français toujours portés disparus au Québec. Ils faisaient une sortie en motoneige autour du lac Saint-Jean. Quand la glace a cédé sous le poids de l'engin, le corps sans vie de leur guide canadien a été retrouvé.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal et bonne nouvelle, les produits français menacés de surtaxe par les États-Unis en représailles à la taxation des géants du numérique ont obtenu un peu de répit. En tout cas, les discussions vont se poursuivre. En contrepartie, Paris accepte de reporter le paiement des acomptes que doivent théoriquement payer à la France les Google, Amazon ou autres Facebook au titre de la taxe GAFA. Alors certains dénoncent un recul du gouvernement. Écoutez les explications du ministre de l'économie Bruno Le Maire.
La France est prête à reporter le paiement des acomptes de sa taxe digitale à décembre 2020. Mais je veux être très clair avec vous. La France n'acceptera ni retrait, ni suspension de sa taxe sur les entreprises numériques tant qu'il n'y aura pas de solution internationale pour remplacer notre taxe nationale. Que les choses soient bien claires entre nous. Ce qui veut dire qu'en tout état de cause, les entreprises numériques paieront leur juste taxe en 2020.
Les précisions à Davos du ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'ONU réclame une enquête après le piratage présumé du téléphone du patron d'Amazon, Jeff Bezos. Téléphone qui aurait été piraté par l'Arabie Saoudite en pleine affaire Khashoggi, largement couverte et relayée par le Washington Post, propriété justement de Jeff Bezos. Le Parlement britannique a définitivement validé ce soir l'accord de Brexit, laissant la voie libre à la sortie historique du Royaume-Uni de l'Union européenne dans 9 jours. Le texte qui règle les modalités du divorce doit encore être promulgué par la reine Elisabeth II, très certainement dès demain. La direction de CEA annonce 30 fermetures de magasins en France, 200 emplois menacés. Le groupe néerlandais met en avant une baisse de son chiffre d'affaires. C'est le deuxième plan de sauvetage que de l'emploi annoncé en moins d'un an avec 14 fermetures de magasins déjà en avril dernier. C'était aujourd'hui l'ouverture de Parcoursup pour les lycéens de terminale qui veulent entamer des études supérieures ou bien les étudiants en réorientation. Depuis ce matin et jusqu'au 12 mars, ils vont pouvoir inscrire leurs vœux sur cette plateforme d'admission post-bac inaugurée il y a 2 ans. 10 vœux au total, avec des choix parfois un peu compliqués et donc un certain stress que vous avez ressenti aujourd'hui à la sortie d'un lycée, Victor Delande.
Oui, il suffit de se rendre devant n'importe quel lycée aujourd'hui pour mesurer ce stress. Chloé est élève en terminale à Paris. Elle vise des écoles de commerce et le simple fait de remplir ses vœux sur la plateforme Parcoursup l'angoisse déjà depuis plusieurs semaines.
On en parle pas mal, surtout que je suis l'aînée de la famille, donc c'est un peu un truc inconnu à la maison. Du coup, Ouais, c'est un peu stressant, avec les parents qui sont stressés aussi.
Eva, elle, choisira des prépas littéraires et des licences de lettres. Elle n'a pas encore renseigné ses vœux, mais elle redoute surtout les réponses qui tomberont à partir du 19 mai. Elle résume l'angoisse de très nombreux lycéens.
Ce serait de ne pas avoir ce que je veux vraiment et de devoir faire un truc qui m'intéresse moins.
Roman, lui, n'est pas particulièrement stressé. Avec un très bon carnet scolaire depuis le début de la seconde, il ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Mais autour de lui, il sent bien monter cette appréhension autour de Parcoursup.
Ça stresse les autres, mais c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé. Justement, je pense que ça stresse aussi, c'est pour ça. Ils disent « Oh, Parcoursup, je verrai », mais ils en parlent pas trop.
Pour ceux qui préfèrent encore procrastiner, rappelons simplement une date. Vous avez jusqu'au 12 mars prochain pour remplir vos 10 vœux sur parcoursup.fr.
Le reportage de Victor Delande pour Europe 1. C'est une affaire d'agression sexuelle présumée dont on avait beaucoup parlé à l'époque. La justice vient de condamner la fille d'Éric Besson, l'écrivaine Ariane Fornia, a versé 1 euro symbolique à Pierre Jox. La jeune femme accusait en effet dans un blog l'ancien ministre d'agression sexuelle. Article diffamatoire selon la justice, ce dont se réjouit l'avocat de Pierre Jox, maître Jean-Yves Dupeux.
Pierre Jox est très soulagé par cette décision qu'il rétablit dans son honneur. Cette décision écarte les arguments donnés par Alexandra Besson et en revanche souligne toutes les contre-vérités dans son blog lorsqu'elle raconte cette prétendue agression sexuelle qui aurait eu lieu un soir à l'opéra. Elle se trompe sur l'opéra lui-même, elle se trompe sur la place qu'elle occupait, elle se trompe sur l'existence d'un entr'acte, il n'y avait pas d'entr'acte, elle se trompe sur le fait qu'elle ait changé de place, elle se trompe sur le fait que son père l'ait rejoint à l'entr'acte. Bref, la plupart des éléments de son récit sont des éléments qui sont faux, ce qui est souligné par le tribunal.
L'avocat de Pierre Jox, maître Jean-Yves Dupeux, avec Alain Acco, Ariane Fornia se dit abasourdie et choquée, elle va faire appel. La circulation différenciée sera instaurée demain à Lyon, à Villeurbanne et à Caluire-et-Cuire en raison d'une alerte à la pollution aux particules fines. Seuls les véhicules avec une vignette critère 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler. La grippe gagne du terrain, 5 régions désormais touchées, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, les Pays de la Loire et la région PACA. Il va bientôt retrouver les étoiles. L'astronaute Thomas Pesquet va effectuer une nouvelle mission dans l'espace, 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale l'an prochain. La disparition de l'un des Monty Python, le comédien britannique Terry Jones, est mort à 77 ans, co-réalisateur de Sacré Graal et de La vie de Brian. Les adieux en ce moment de Jean-Paul Gaultier à la haute couture avec un grand défilé au Théâtre du Châtelet pour célébrer ses 50 ans de carrière. Et puis le foot, bien sûr, comme promis. Qui pour affronter Lyon en finale de la Coupe de la Ligue? On va plus tarder à le savoir. La deuxième demi-finale se joue en ce moment. Je suis troublée. Je vous retrouve tout de suite. Cyril de la Morinerie. Reims face au PSG est toujours une domination parisienne, hein, me semble-t-il.
Oui, large domination parisienne. 53 minutes de jeu. Les Rémois qui n'ont pas eu vraiment d'occasion dans cette partie. Ils sont menés 2-0. Le Paris Saint-Germain qui gère parfaitement cette demi-finale avec un premier but sur un corner de Neymar. Neymar titulaire avec Mbappé. Et les deux garçons font plutôt un bon match avec ce corner de Neymar qui trouve la tête de son compatriote Marquinhos. Et puis à la 31e minute, le deuxième but, un coup franc de Neymar direct et qui est dévié dans son propre but par le défenseur rémois Conan. Les Parisiens qui d'ailleurs ont un petit luxe, hein. Ils ont mis Icardi et Di Maria sur le banc, l'entraîneur Thomas Tuchel, donc qui pour l'instant préfère ménager ces deux autres stars face à une équipe rémoise qui rêve évidemment de contrecarrer les plans parisiens qui réclament à l'instant un pénalty sur une main parisienne qu'ils n'obtiendront pas. Michael Lesage et l'arbitre et ne bronchent pas. Donc ce score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain dans un stade Auguste Delaune plein. 54 minutes de jeu.
Et je sais que vous en rêvez vous aussi de contrecarrer les plans parisiens. Merci Cyril. On va vous retrouver un petit peu avant 22h30 si vous le voulez bien pour faire
avec
un nouveau
plaisir.
Point sur cette rencontre. On jette un œil avec vous sur la météo à Nissa Hadadi. Deux départements, je le disais tout à l'heure, toujours en vigilance rouge, crue inondation, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Deux autres en vigilance orange pour risque de crue, l'Ariège et la Haute-Garonne. Et demain à Nissa, ce sera encore très pluvieux dans le sud.
Oui, effectivement Isabelle, demain matin sur les Pyrénées-Orientales, toujours des pluies assez soutenues. Au fil des heures, ces pluies, elles vont se décaler vers l'est, vers les Cévennes, sur l'Hérault, le Gard, le Tarn et l'Aveyron. Ce sont des précipitations quand même beaucoup plus modérées que ce qu'on a eu ces derniers jours dans les Pyrénées-Orientales. En bord de Méditerranée, sur le Cap Corse, le vent d'est souffle toujours assez fort, hein, jusqu'à 90 km/h demain. Sur les Pyrénées, il neige à partir de 1800 mètres. Et puis des éclaircies vont se développer dans l'après-midi. Donc c'est une bonne journée journée pour les amateurs de neige. Neige le matin, soleil l'après-midi. En début de journée, attention sur le quart nord, attention aux brouillards matinaux qui resteront persistants sur les Hauts-de-France dans l'après-midi. Et puis de la Bretagne à la vallée du Rhône, le ciel est voilé avec quelques belles apparitions du soleil. En fait, c'est du Cotentin en passant par la région parisienne, sur le Val-de-Saône, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, toute la façade est. C'est là que le soleil sera le plus généreux demain. Les températures, elles sont encore fraîches au nord-est le matin. Moins 5 à 2 degrés, moins 5 à Épinal, moins 3 à Strasbourg, moins 1 à Dijon, 1 degré pour Paris, 3 à Brest et 11 à Perpignan le matin. Et au meilleur de la journée, nous aurons 5 à 17 degrés de Beauvais à Marseille, 8 pour Paris.
La météo signée Anissa Adadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Proman. On va parler de l'intérim. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, merci d'écouter Europe 1. On va s'intéresser tout de suite à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui a perdu du terrain en fin de séance, rattrapé par les craintes d'épidémie venues de Chine ce soir.
Oui, la Chine qui promet qu'elle met tout en œuvre pour contenir le coronavirus et éviter une épidémie, mais les marchés restent prudents ce soir. Le Dow Jones est quasi stable, moins 0,03% à 29 187 points. Le Nasdaq, lui, gagne 0,14% à 9 384 points. Grosse séance pour le géant informatique IBM. L'action grimpe de 3,5%. Les résultats trimestriels sont bons. Les prévisions aussi pour les prochains mois. C'est plus compliqué pour Boeing. L'avionneur européen a prévenu hier que son appareil 737 MAX ne volerait pas avant la mi-2020. Boeing perd encore 1,4%. Et puis Netflix chute de 3,7%. Les résultats sont bons, mais la plateforme de vidéo affiche sa prudence pour les mois à venir. La concurrence est forte avec l'arrivée des services de Walt Disney et d'Apple qui vont bousculer le marché. Du côté des devises, l'euro grappille 0,03% à 1,1086$.
Et à Paris, le CAC 40 reste lui aussi sur ses gardes, freiné toujours par le fameux virus chinois.
Oui, malgré une tentative de rebond en début de séance, c'est finalement du rouge pour le CAC 40, moins 0,58% à 6011 points. Sanofi a pesé sur le CAC, le titre du laboratoire perd près de 3%, pénalisé par une note d'analyste. En baisse également, on a le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs Soitec. Il plonge de 15%. Les investisseurs sanctionnent le net ralentissement de la croissance au troisième trimestre de son exercice 2019-2020.
Et puis si ça ne va pas fort pour Boeing, ça va beaucoup mieux pour Airbus qui a touché de nouveaux sommets aujourd'hui en bourse.
Et oui, car l'avionneur européen profite toujours des déboires de son grand concurrent américain Boeing avec son 737 MAX. Airbus a d'ailleurs annoncé hier qu'il allait accélérer la cadence de production de son A321neo, qui est le concurrent du 737 MAX. Airbus gagne donc 1,2% ce soir. Et puis Amundi se renforce en Espagne. La société va s'offrir la filiale de gestion d'actifs de Banco Sabadell pour 430 millions d'euros, plus 3,5% ce soir pour Amundi. Ailleurs en Europe, c'est une séance dans le rouge pour les marchés. Francfort et Londres perdent 0,4%, moins 0,4% aussi pour Madrid. Milan recule de 0,6%. Bruxelles et Amsterdam, moins 0,4%. Et à Paris, le CAC 40 recule de 0,6% à 6011 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur général de Proman.
Bonsoir Roland Gomez.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Proman. Alors on commence à connaître Proman, c'est le quatrième groupe d'intérim en Europe, là depuis quelques jours. Un groupe familial qui vient de réaliser la plus grosse acquisition de toute son histoire en achetant un grand nom de l'intérim au Benelux, donc notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Pourquoi avoir comme ça besoin de grossir hors de France, puisque la dernière fois où vous êtes venu, c'était pour une acquisition aux États-Unis?
C'est vrai, effectivement. Alors, on grossit hors de France, mais aussi en France, j'y reviendrai. L'acquisition d'Agilitas est une opportunité qui s'est offerte à nous, très structurante et significative, sur des pays où nous étions déjà présents, la Belgique, mais là, du coup, nous devenons un acteur important en Belgique et aux Pays-Bas. Ce sont deux marchés qui sont très dynamiques et où le travail temporaire a une forte présence.
Je veux qu'on utilisait plus l'intérim que chez nous en France.
C'est exact. Ces deux pays ont un taux de pénétration du travail temporaire plus important qu'en France. Ce sont des pays qui sont les plus consommateurs de travailleurs temporaires par rapport au reste des pays européens.
C'est important comme ça de se développer hors de France et notamment dans ces pays dynamiques à un moment où l'intérim connaît un petit trou d'air au global si on regarde le marché français.
Alors si on regarde le marché français, il y a un petit trou d'air puisque l'an dernier le marché national reculait, cette année il démarre pas mieux, toujours en recul, mais c'est valable aussi dans les autres pays, c'est valable en Belgique et c'est valable aux Pays-Bas. Donc on sait très bien que nous sommes dans une activité cyclique et ça va se retourner, on prépare l'avenir.
On a bien évidemment énormément parlé des grèves ces dernières semaines, on entend beaucoup de personnes du côté de l'hôtellerie, de la restauration qui disent que ça a été très très dur pour eux, principalement en Île-de-France. Est-ce que ça a eu un impact marqué sur le marché de l'intérim?
En ce qui concerne Proman, un impact marqué, je ne dirais pas ça. Alors un impact dans la vie de nos collaborateurs permanents, la vie de nos consultants et nos intérimaires un petit peu, mais si on regarde les chiffres en tant que tels et nos prestations horaires, elles n'ont pas réellement baissé, elles n'ont pas eu d'impact. Alors il ne faut pas oublier que nous sommes en réseau national France, là où il y a le plus d'impact, c'est à Paris évidemment, mais pas très significatif, je dois l'avouer.
Alors on le disait, le marché de l'intérim connaît en France un trou d'air, une année 2019 un petit peu en baisse, ça démarre mal également cette année. Comment ça s'explique alors que les chiffres de l'emploi sont plutôt bons à côté?
C'est vrai, alors il faut le relativiser puisque nous avons connu 4 années de croissance continue, donc je pense moi que c'est un rééquilibrage. Par contre, c'est un phénomène réel. Il y a moins d'employés, il y a moins de travailleurs temporaires ces derniers mois. Et donc, ça n'est pas de bon augure. Ça annonce peut-être quand même, quelque part, un petit reflux d'activité économique.
Oui, parce qu'on dit que l'intérim est généralement un indicateur avancé du marché de l'emploi. Donc, vous, généralement, si ça commence à baisser, 6 mois plus tard, il devrait y avoir une baisse dans les chiffres de création d'emplois et tout. Mais vous pensez que c'est ce qui va se passer? C'est ce que vous entendez? Ou à l'inverse, vous entendez plutôt des entreprises qui disent « Le marché de l'emploi est tellement tendu que moi, je propose tout de suite un CDI et je passe plus du tout par l'intérim. » Il peut y avoir les deux lectures.
Il peut y avoir les deux lectures, c'est juste. Il peut y avoir les deux lectures. Moi, je crois que plutôt, c'est légèrement en réajustement. Je suis très optimiste sur 2020. Les chiffres de Proman, mais encore une fois, sont parfois atypiques, sont en progression à 2 chiffres sur le début d'année. Donc, je suis assez confiant. Après, je n'ai pas de boule de cristal sur l'activité économique française. Mais je reste très optimiste de mon côté.
Mais qu'est-ce qui vous rend optimiste? Parce que si vous êtes optimiste, c'est que vous avez des éléments de l'être.
Alors mes résultats, bien évidemment, mais alors je vais vous faire une confidence. Ce qui me rend optimiste, c'est que je viens de terminer une réunion de rentrée avec tous mes collaborateurs et toute ma force de vente qui anime nos 350 agences en France. Et quand je vois leur sourire et leur dynamisme et leur optimisme, bah, ils me le relaient et vice-versa. Donc aujourd'hui, quelle que soit la situation économique, on se doit dans notre métier de service d'être optimiste. Et si on perd des parts de marché, on ira en chercher chez nos confrères. C'est le message que je leur ai passé tout à l'heure.
Certains disent aussi qu'il faut que vous soyez beaucoup plus innovants sur vos façons de recruter. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter le bon profil. Et quand on dit le bon profil, c'est généralement la personne qui a le bon diplôme, qui colle bien avec l'offre d'emploi. Il y en a de plus en plus qui disent, mais arrêtons de regarder les diplômes et regardons l'envie et finalement ce qu'est capable réellement de faire la personne. Est-ce que vous êtes prêt aussi à vous engager sur cette voie, d'être plus ouvert et plus innovant sur la façon de recruter?
Alors, on ne va pas s'engager sur cette voie parce qu'on l'a prise depuis toujours. Chez Proman, on est une entreprise familiale avec des valeurs, on est 100% indépendant. On donne sa chance à tout le monde. Le créateur de Proman, qui n'est ni plus ni moins que mon papa, est un chaudronnier tuyauteur. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui va faire 3 milliards d'euros. On donne la chance à des gens qui ont envie, qui ont la passion, et après on les forme. Et ça, c'est valable pour nos intérimaires comme pour nos collaborateurs permanents. C'est pas très innovant, c'est simplement certaines entreprises qui découvrent qu'on peut s'y prendre comme ça.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les entreprises qui sont vos clientes commencent à accepter cette idée, à se dire « Ok, bon, bah, il n'a pas le diplôme XY dont j'ai besoin, mais vous me dites qu'il est passionné, qu'il est hyper adaptable et que par son expérience finalement des jobs qu'il a pu faire, il sera tout à fait capable de faire ça. »
C'est exactement ça et c'est à nous aussi de les convertir et de les persuader. Mais ils sont en train de rentrer dans cette réflexion, si vous voulez, puisqu'aujourd'hui, ils nous disent « Trouvez-nous des bonnes personnes. » Et pour le reste, on s'en occupe. Et nous, on s'occupe aussi de les former. Mais trouvez-nous des personnes qui ont envie de travailler et qui ont un bon savoir-être. Ça commence par ça. Et dans nos agences et avec nos méthodologies, on met ça en avant depuis toujours.
Vous êtes confronté, vous comme les autres aujourd'hui, à tous ces métiers dans le digital, dans le numérique, mais également dans le BTP, dans certains métiers du BTP, où il n'y a pas de candidats aujourd'hui. Vous ratez des marchés à cause de ça, parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne?
Oui, on en rate, c'est vrai. On n'arrive pas à fournir 100% de nos commandes et 100% de nos demandes. Mais pour autant, on essaye à chaque fois que c'est possible de trouver des palliatifs, notamment en passant par la formation, évidemment, et surtout en expliquant à nos clients qu'il faut donner une chance à un tel ou un tel et à mettre en place un programme de formation.
Aujourd'hui, les entreprises ont le droit, avec la loi sur la formation, de créer leur centre de formation des apprentis, ce qu'on appelle les CFA. Vos concurrents, par exemple, Adecco, se sont alliés notamment avec le grand nom de la restauration collective Sodexo pour en lancer un. Vous allez en faire un chez Proman ?
On y réfléchit très sérieusement.
Ça veut donc dire, oui, vous allez en faire un.
Oui, on va sûrement en faire un. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît et on va saisir cette opportunité. Peut-être pas en 2020, mais peut-être l'année prochaine.
Eh bien, ce sera l'occasion de revenir sur Europe 1. Roland Gomez, le directeur général de Proman, qui est donc maintenant le quatrième groupe d'intérim en Europe. Un grand merci d'avoir été notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Des visages portant un masque blanc sur la bouche et sur le nez à la une de Libération qui titre « Coronavirus poussé de fièvre ». Déjà 17 morts, plus de 540 cas recensés. La propagation de l'infection inquiète les autorités sanitaires internationales. Libération décrypte les origines et les risques potentiels de cette épidémie venue de Chine. Un sablier à la une du journal La Croix avec ce titre « Retraite, comment comprendre la réforme ?» Alors que le projet de loi sera présenté vendredi en Conseil des ministres, le journal expose en détail le fonctionnement du futur système universel. Hausse des salaires, parole, titre le journal L'Opinion. Le gouvernement fait pression sur les entrepreneurs, mais en a-t-il vraiment les moyens ? Et comment ménager la compétitivité des entreprises tout en choyant leurs salariés ? Difficile équation. Dans le journal L'Alsace, Laurent Baudin revient sur la visite d'Emmanuel Macron à Jérusalem. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Comme en 1996 avec Jacques Chirac, cette visite a été marquée par un incident impliquant la police israélienne, pour la même raison qu'il y a près d'un quart de siècle d'ailleurs, à savoir la présence d'un militaire israélien à l'intérieur de l'église Sainte-Anne, reconnue comme un territoire français. De l'extérieur, l'affaire peut paraître anecdotique. Elle tient en fait d'un symbole, nous dit Laurent Baudin, celui d'une armée israélienne qui n'hésite pas à faire fi de toutes les règles internationales dès lors qu'il s'agit d'intervenir dans les territoires arabes, dont fait partie le quartier est de Jérusalem. En tout cas, demain, au mémorial de Yad Vashem, le chef de l'État devrait réaffirmer l'engagement de la nation à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Restera ensuite à mettre en place les moyens efficaces pour y parvenir, afin que les citoyens juifs n'aient plus peur de vivre dans leur pays qu'est la France. À Jérusalem, le monde ne veut pas oublier, titre pour sa part Le Figaro. 25 chefs d'État se retrouvent demain à Yad Vashem pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et contribuer à la perpétuation du souvenir après que les derniers survivants de la Shoah auront disparu. Et puis commerce, Trump défie l'Europe, c'est le titre des Échos. À Davos, le président américain réclame un accord commercial rapide avec Bruxelles. À défaut, il menace de taxer à 25% les voitures européennes, tandis que Bruno Le Maire, lui, tente de sauver le projet de taxe sur les géants du numérique. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et chose promise, chose due, on fait un nouveau détour par Reims pour rejoindre Cyril de la Morinerie qui suit pour nous la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Paris.
Et il reste une demi-heure, il reste 20 minutes pardon, dans le congélateur du stade Auguste Delon. 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui domine toujours largement les débats, même si les Rémois essayent de réagir avec notamment une frappe de Dia. Le gardien s'est interposé. Doumbia qui a eu une très belle occasion également avec une frappe trop croisée. Ou encore Munetzi qui est entré dans la surface de réparation. Il est tombé, il était au duel avec Kimpembe, il n'y avait pas pénalty et l'arbitre avait, semble-t-il, raison. Les Parisiens qui donc devraient se diriger tranquillement mais sûrement grâce à cette belle domination vers le Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue où ils devraient donc, où ils vont s'ils s'imposent ici à Reims, ils rencontreront Lyon qui s'est imposé contre Lille hier soir. 2-0 pour le Paris Saint-Germain à Reims, il reste 20 minutes à jouer.
Et j'espère que vous avez une belle écharpe Europe 1 pour vous tenir chaud dans ce congélateur. Merci beaucoup.
Collant Europe 1, tout Europe 1.
Ah oui, même le collant, j'ai pas celui-là moi. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie, très belle soirée à tous à l'écoute d'Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Et moi non plus, je n'ai pas ma paire de collants Europe 1.
On va réclamer.
Bah oui, il faut.
On sera beau. Hein. Merci, à tout à l'heure
à
Olivier.
À tout à l'heure Isabelle.